Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Nous sommes heureuses d'accueillir la poète et artiste Rim Battal ici. Merci d'être venue. La rencontre sera modérée ce soir par l'écrivain Al Belak. Merci aussi d'avoir accepté de préparer cette modération. Après le temps d'échange, il y aura aussi un temps d'échange avec vous, le public, si vous le souhaitez. Voilà, et bonne rencontre.
Rim, bonjour.
Bonjour, Al.
Tu es poétesse formée au journalisme et à la photographie à l'Institut supérieur et la communication de Rabat. XXC est sorti cette année chez le Castor Astral. C'est ton 7e recueil, rien que ça. Et pourtant, il aura fallu qu'Aurélie Olivier te contacte afin de participer au recueil collectif Lettres aux jeunes poétesses, publié chez L'Arche en 2021, pour que tu te considères enfin poétesse. On dit de ta poésie qu'elle est crue, vulgaire, transgressive ou provocante, ce qui a le don de t'irriter. Ta poésie n'est que le miroir des mondes complexes et brutaux que tu traverses. À ce titre, elle tâche seulement peut-être d'être juste, honnête et entière. J'aimerais démarrer cette rencontre avec le recueil dont je viens de parler, Lettres aux jeunes poétesses. Hop, le voici. T'as le vertige, tu sais faire du feu, ça ressemble à ça la poésie, ce sont tes mots. Dans ta lettre, tu invites à mettre le feu, alors au tribunal, pour citer la philosophe Yala Nadia Kisukidi, à la maison du maître et au père blanc, qui ont galvaudé le mot poésie, pour citer Audre Lorde. En quoi la poésie, Rim Battal, est-elle selon toi un outil de lutte ?
C'est un outil de lutte à défaut de pouvoir prendre les armes parce qu'on est pacifiste et pacifique. Alors c'est un outil de lutte pour plusieurs raisons. D'abord parce que en fait c'est une des manières de dresser un pont entre une subjectivité et une autre en fait, d'une manière très directe, sans se cacher forcément derrière la narration. Bon, il y a la question du style, de la langue qui travaillait, de la musicalité, de la métaphore, des images, etc., qui sont qu'on retrouve généralement en poésie, mais ça reste une des manières les plus directes pour accéder à la sensibilité de l'autre. Donc c'est pour ça que je trouve que écrire de la poésie et en lire, c'est une manière de rester lié. Et rester lié, c'est lutter en fait. C'est trouver les endroits où on peut lutter ensemble, où on peut se soutenir, se serrer les coudes, ou trouver, entre guillemets, ses semblables. Voilà. Enfin, pour trouver ses semblables.
Dans un entretien avec Clara Régis sur le site Terraciel, tu dis d'ailleurs, pour prolonger cette idée, que la poésie, c'est l'art des pauvres, des exclus, des marginaux, des femmes, des PD, des trans, des mères, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas le temps et le loisir de s'isoler pour écrire. Et puis tu finis par dire que tout le monde peut écrire, il n'y a même pas besoin de maîtriser l'orthographe ni la grammaire, et que c'est ça qui en fait une littérature inclusive.
Bah exactement, oui. Enfin, déjà, moi, je ne maîtrise pas totalement la grammaire et l'orthographe malgré des efforts soutenus depuis des années. Bon, ce n'est pas forcément ma faute, c'est aussi la faute au système d'éducation au Maroc. J'ai fait l'école publique et ça n'a pas toujours été hyper facile, surtout sur le français. Mais j'ai pu aussi donner à de nombreuses reprises des ateliers d'écriture avec des scolaires, parfois dans des lieux qui sont éloignés pour des raisons X ou Y de la littérature, de la poésie. Et j'ai toujours eu ce discours un peu, cette réticence, cette appréhension par rapport à la poésie en particulier, par rapport à l'écriture, la littérature de manière générale, au français justement, où à chaque fois on me disait, non mais madame, on va écrire de la poésie, mais moi je sais pas écrire, mais moi je suis pas forte en français. Et du coup, en fait, le fait de dire à ces jeunes d'évacuer la question de la langue, que c'est pas très grave en fait si on fait des erreurs, c'est pas très grave si c'est écrit avec les pieds, et ben en fait ça les libère quelque part, et on se retrouve avec des pépites, franchement. Dès que tu leur dis, en fait, le rap aussi, c'est de la poésie, c'est pas forcément, je sais pas, t'es pas obligé de faire du mal à l'armée, quoi. Franchement, je rencontre plein de choses hyper touchantes que parfois je n'ai même pas retrouvées dans de la poésie qui est éditée. Donc voilà, je pense qu'on a toutes et tous des choses à dire déjà, et des manières à nous, des manières qui sont vraiment bien à nous, quand je dis à nous, vraiment qui sortent de notre vraie intimité, dans notre vrai rapport intime avec la langue, donc des manières de dire qui sont vraiment uniques et singulières.
Oui, j'ai l'impression que ce qui en fait aussi peut-être la poésie, particulièrement une littérature inclusive, c'est peut-être qu'elle puise dans des traditions orales aussi. Du coup, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de cette évidence-là, où en plus tu faisais le lien avec le slam et le rap. J'ai l'impression qu'il y a cette peut-être continuité des traditions orales qui lui permet d'être aussi populaire, enfin qui en fait une littérature populaire.
Franchement, c'est possible, parce que là, j'ai toujours ressenti ça, en tout cas dans le rapport au marocain, au darija marocain, donc qui est la langue courante, où on a une manière très différente, un autre rapport à la syntaxe, parce que comme c'est pas une langue qui est vraiment figée, en revanche, c'est celle qui est vraiment la plus utilisée, que ce soit à la fois pour des rapports informels, que pour... on l'utilise même dans les administrations, etc., chez le médecin, partout. Enfin, vraiment, on véhicule plein de messages de types différents avec cette langue qui n'est pas reconnue comme langue, mais qui, je sens que chez moi, en tout cas, ça traverse le français. Ça vient parfois flirter avec le français pour produire des petits... accident heureux, j'ai envie de dire. Et cette année aussi, j'ai eu la chance immense d'être invitée à un festival à Kinshasa. Et pareil, en fait, j'ai eu des discussions là-bas avec les poètes et poétesses qui parlent principalement lingala. Il y a quatre ou cinq langues différentes au Congo, qui comptent 120 millions de personnes et dont la langue commune, c'est le français. Tout le monde ne le maîtrise pas de la même manière, au même niveau, mais c'est finalement la langue commune. Et donc, tous ces poètes et poétesses que j'ai rencontrés, slameuses qui écrivent en français, m'ont dit aussi constater la même chose, en fait, comment leur poésie est traversée par leur langue d'origine, comment elle est traversée par justement toutes ces images, ce rapport au conte, à l'oralité. Et c'est une richesse. Et j'ai l'impression que je rencontre aussi ça, que j'ai pu le rencontrer en tout cas avec les jeunes avec qui j'ai pu bosser en atelier, parce qu'il y en a beaucoup qui sont issus de l'immigration. Et justement, en fait, j'ai bossé dans des lieux où personne ne veut aller. Du coup, il n'y a que les poètes et poétesses qui ont pas de thunes. Et du coup, qui y vont. Non, mais qui y vont aussi par engagement. Et c'était, à chaque fois, c'est hyper joyeux aussi. Et je sais pas, c'est un peu une sorte de joie personnelle que d'essayer de comprendre, de déceler qu'est-ce qui est, quels sont les endroits qui sont traversés par une langue natale, par des images natales, etc. Sachant que dans une classe, franchement, il y avait des personnes originaires de 10 pays différents.
Alors j'ai vérifié, et dans 20 poèmes et des poussières, alors c'est ton tout premier recueil qui est publié en 2015 chez Lanskin, il était déjà mention de porno dans un poème intitulé Vénus. Voilà, je fais bon. Vénus, d'ailleurs, on la retrouve également dans XXC, hein, on en reparlera peut-être sous les coups de pinceau de Fragornard et Cabanel. Alors tu écris dans 20 poèmes et des poussières, moi je l'aimais bien ma dada au gros lolo, avec elle pour la première fois j'ai regardé du porno. C'est probablement ce genre de vers qui t'a valu les étiquettes de poétesse subversive dès tes débuts. Qu'est-ce qui fait qu'en 2024, la porno, ça devient pour toi un sujet à part entière, donc au point que tu écrives X et accès ?
En fait, moi, je ne trouvais pas ça subversif, je trouvais ça vraiment mignon. Et apparemment, on n'a pas forcément la même définition de mignon. Et du coup, ouais, non, en fait, la pornographie n'est pas arrivée dans ma vie en 2024. Mais en fait, hyper tôt, je pense que le premier film porno, enfin pas film, genre vidéo sur laquelle je suis tombée, je devais avoir, je sais pas moi, 11 ans, un truc comme ça, ce qui est hyper jeune. Parce que les parents n'étaient pas là et qu'il y avait des chaînes cryptées à l'époque. Et donc, on avait le droit de se réveiller la nuit, d'allumer la télé avec ma petite sœur qui en plus avait 9 ans. Et voilà, donc on a vu des trucs, on a fait « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Genre, t'es pas préparé, t'as jamais rien vu. Et soudain, tu découvres ça. Mais en fait, on peut pas... Enfin non, j'allais partir sur autre chose, mais on va rester concentré. Mais c'est en 2017, à peu près, que j'ai commencé à travailler sur ce qui va devenir un livre, donc « X et X ». Et en même temps que... que L'eau du bain, donc l'autre livre, en fait les deux, d'ailleurs L'eau du bain est paru en 2019 chez Supernova, mais il a été réédité, il est sorti en même temps, le même jour que X et X cette année. Et donc c'était pour moi à la fois, j'allais dire, je trouvais ça intéressant de travailler et sur le porno et sur la maternité en même temps, mais vraiment je n'avais aucune idée que j'étais en train de faire ça. J'en ai pris conscience à la sortie des deux en vrai, et pour être tout à fait honnête. Mais en fait je me suis surtout rendu compte à ce moment-là que à chaque fois que je commençais à travailler, donc à écrire, à rentrer vraiment dans le vif d'un texte, donc à ce moment-là c'était L'eau du bain, je me mettais à procrastiner. Pour procrastiner, je regardais des vidéos porno. Et donc, à un moment, ça m'a questionné un peu le lien entre les deux. Comme je n'avais pas le moindre micro début de réponse, je me suis dit, bon, je vais commencer à écrire dessus et on va voir ce que ça donne. Au moins, je ne vais pas culpabiliser parce que je n'aurai pas l'impression de procrastiner puisque je produis du texte en faisant ça. Enfin, voilà, on fait des pirouettes qu'on peut. Et puis, petit à petit, en fait, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, en fait, pour en faire un livre et de l'assumer. Et de, pas de l'assumer, vraiment, je voulais que ce soit quelque chose de très, très travaillé, qu'on ne puisse pas m'attraper sur la langue en me disant c'est quelque chose de léger, c'est pas de la poésie, etc. Je me disais qu'on allait peut-être m'attendre au tournant et il fallait que ce soit du solide.
Sur cette question de la procrastination, est-ce que tu veux bien nous lire le poème 9 qui est assez court mais comme une mise en abîme de l'écriture de ce recueil ?
Entrée. J'hésite. Comme à la roulette, je joue mon après-midi. Mon temps est mon seul capital. Je n'ai plus 18 ans. Et entre guillemets... Je cite Virginie Despentes. J'ouvre un document Word en me disant que je vais travailler et 5 minutes plus tard, je mate un porno. Fait dire Virginie Despentes à son personnage dans Cher connard.
Justement, je vais en profiter pour parler de la citation dans XXC. C'est une œuvre qui est très connectée à d'autres œuvres. Donc tu cites Virginie Despentes, Newal et Sadawi, Griselda d'Israël, Samuel Beckett, etc., etc. XXC, c'est du porno connecté à la littérature, à l'art contemporain. Est-ce qu'il s'agissait pour toi, finalement, de traiter toutes ces formes de représentation de la sexualité plutôt en Occident, qu'elles viennent de l'art légitime ou de la porno, qu'elles soient déguisées ou évidentes de la même manière, d'égaliser un peu ces formes de représentation?
Exactement. Et du coup, il y a aussi... depuis tout à l'heure, je te tutoie, soudain. Tu as parlé de... Et tu as parlé d'œuvres d'art et de connexion avec d'autres, des œuvres littéraires, donc avec des productions culturelles légitimes. Mais il y a aussi un moment, je décris un calvaire qui se trouve en Bretagne, sur lequel il y a une Marie allongée sur son lit et on voit ses seins. Et c'est vraiment une image hyper gratuite, parce qu'elle vient soi-disant d'accoucher de Jésus. Et il n'y a aucune raison qu'elle montre ses nichons. Enfin, j'ai accouché deux fois, j'étais pas là sur mon lit avec mes seins à l'air. Et voilà, en fait. Et donc, ces calvaires-là, c'est aussi des représentations. je ne sais pas si on peut parler de pornographie à proprement dire en vrai, mais on retrouve de l'érotisme aussi dans l'iconographie religieuse, chrétienne surtout, enfin en islam il n'y en a pas, c'est simple, mais le Jésus qui est comme ça, souvent dans des poses lascives, il y en a un mais vraiment hyper sexy à l'église Saint-Merry à Paris, si jamais vous avez l'occasion de vous y rendre. Et il est incroyable, il est super bien fichu, mais la pose, elle est vraiment impressionnante, c'est tellement explicite, avec le petit machin qui tombe un peu sur la, la chute des reins et tout.
Bah, on peut parler d'un autre tableau, il y a un frottement, là tu opères vraiment un frottement assez... C'est bien fait entre justement une représentation pornographique et un tableau biblique. C'est le poème 19 et ça débute vraiment comme un porno. En fait, on s'aperçoit que c'est une peinture.
Il y a 10 hommes et une femme au centre. 2 hommes la regardent, peut-être 3. Ils sont tous habillés. 5 ont un couvre-chef. 3 sont chauves. Tous les chauves sont barbus. 2 se ressemblent comme père et fils. Un homme la montre de la main. Elle semble étudier. Des yeux suivent l'homme qui la montre. D'autres pensent elle est jeune, blonde et dodue. Elle montre son sein gauche de la main droite. Elle montre son cœur. À en croire le carton, cela s'appelle « Le Christ et la femme adultère » de Jobst Harish, huile sur métal, cuivre, 1617. D'après la Bible, Jésus sauve une femme infidèle de la lapidation. C'est au Louvre que cela se trouve.
On peut rester au Louvre un petit peu si tu veux et tu peux nous lire le poème 51.
J'ai beau me balader par là tous les dimanches matins, dans la main mon abonnement, ami du Louvre, j'ouvre les yeux, m'écarquille. Pas un seul marbre court Marly n'a le pied comme le mien, mon nez n'est pas mésopotamien. Je n'ai pas été retenue par l'histoire. Ici, j'ai trouvé tant de fois mon visage. Il était reconnaissable sous les cream pies. Mes seins, mon ventre, ma voix, tout est là. Mes pieds tour à tour manucurés ou sales d'une équipée à nu. Ici, je me vois souriante et humiliée, comme je le suis à chaque réveil, triste de ne pas mourir encore.
Encore une fois, celui-ci, je le trouve très fin. Et après avoir fait ce lien entre porno et iconographie biblique, là, tu viens carrément faire mettre en miroir le musée et le site pornographique en posant clairement la question de « Où suis-je représentée ?» Je sais pas si tu veux rebondir. J'ai pas forcément toujours des questions. Mais moi,
Non, j'étais en train de me dire « Mais quelle analyse brillante !» Je suis impressionnée, Al, merci. Et surtout reconnaissante pour ce travail, franchement, merci beaucoup. Franchement, je ne sais pas quoi dire.
On peut là-dessus. Enchaîner alors. Je voulais m'attarder à nouveau sur les formes de citation. Je ne sais pas si c'est anecdotique, tu as 2 façons de citer des œuvres dans ton texte. Donc tout à l'heure, hein, tu t'es même arrêtée d'ailleurs pour lire celle sur Virginie Despentes en disant, voilà, c'est vraiment une citation qui est en retrait, donc on est sur une autre... taille de police, et on a d'autres citations, au contraire, c'est celles qui font la majorité, qui s'insèrent réellement dans le corps du poème. Moi, ça m'a vraiment étonnée, c'est une question qui m'intéresse vachement, de comment on cite d'autres œuvres à l'intérieur de son œuvre, et donc le fait que tu utilises ces 2 procédés distincts, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus sur ces choix-là.
Alors, ça fait partie des choix que je ne saurais pas vraiment argumenter. Moi-même, je me pose la question de pourquoi, etc. Mais c'est tout ce que je peux dire, c'est qu'à un moment, pour moi, ça s'impose comme une évidence, que c'est comme ça qu'il faut le faire, et puis c'est tout. Et même en essayant de changer, de transformer le texte, de le faire autrement, pour moi, c'est pas... je sais pas, c'est comme transformer une personne. Tu peux la déguiser si tu veux, mais en fait, si c'est pas elle, c'est pas elle. Et pareil, pour moi, ces textes-là, il fallait citer de cette manière et pas une autre. Pareil aussi sur la... c'est une question qui se pose régulièrement en poésie, genre pourquoi vous êtes passé à la ligne là, en fait ? À quel moment on décide que ça, c'est un vers et on passe à un autre, etc. Là encore, c'est la même chose. C'est la même réponse. Je ne sais pas. J'ai pas de... de quoi théoriser, mais pour moi, c'est juste une sorte d'évidence, de certitude que c'est exactement là qu'il faut que ça tombe, comme une sorte de tissu ou de drapé qu'on fait, qu'on soigne, et qu'à un moment, ça tombe comme ça, il faut pas plus y toucher, c'est exactement... C'est... J'ai trouvé l'image et l'identité de ce poème avec sa propre musique, etc.
Au-delà des citations littéraires, tu cites également des œuvres picturales et visuelles. Donc on a parlé du Christ et la femme adultère de Jobst Harish, les Vénus de Fragonard et Cabanel. Et tu parles également de l'installation Fontaine Sainte de Laure Prouvost. Donc on est vraiment sur un large panel d'œuvres d'art. Dans 20 poèmes et des poussières, la poésie elle était aussi accompagnée déjà de photos. Et dans les quatrains de LOL Inclusive, on a des dessins. C'est des formes moi, qui me rappellent un peu la littérature jeunesse, ces formes de facilitation de la littérature. Est-ce que justement ça vient d'un désir de rendre ta poésie accessible, de la décloisonner ou bien juste de la faire dialoguer avec d'autres disciplines, tout simplement ?
C'est plutôt la réponse C. C'est la faire dialoguer avec d'autres disciplines, d'autres personnes, d'autres manières de concevoir peut-être les mêmes choses que moi, mais d'une autre façon, d'autres manières de les dire. La question aussi qui s'est posée pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait entrer dans un recueil de poésie ? Qu'est-ce qui a sa place ou pas ? Est-ce qu'une œuvre d'art contemporaine est légitime d'être citée ? C'est beaucoup plus évident pour les lectrices de croiser Beckett ou... comment il s'appelle l'autre l'anglais ? J'ai oublié son nom. que je cite aussi. William Blake.
Ah oui.
William Blake. Quand je cite Céline Duchesnay, que j'écoute à la radio, en fait, au moment où j'écris le texte, en fait. Je suis en train d'écouter la radio, elle dit un truc. Pour moi, ça résonne avec ce que je suis en train d'écrire et je l'intègre dedans. Pour moi, c'est vraiment... Je les mets sur un même pied d'égalité. Et je ne sais plus du tout si je réponds à la bonne...
Si, carrément. Oui, ça dit quelque chose aussi, je pense, du fait que quand on n'écrit pas seul, on écrit accompagné. Et donc ça, tu en témoignes quelque part en citant autant, je trouve, dans ton œuvre, d'autres œuvres.
Oh, on n'écrit pas seul, on écrit accompagné et on ne pense pas seul. En fait, les idées ne germent pas comme ça, comme par la force du Saint-Esprit dans nos têtes. C'est des résonances, c'est des choses qu'on glane, c'est des conversations continues avec d'autres œuvres, d'autres personnes, d'autres pensées. Et puis, soudain, on a ces petites illuminations qu'on arrive à formuler avec nos propres mots, peu importe l'outil qu'on utilise, ou notre appareil photo, ou peinture, ou danse. Et elles prennent forme. Et puis, voilà, peut-être d'autres vont aussi se les réapproprier, les porter d'une autre manière, les faire diffuser ailleurs, etc., les faire voyager. Et voilà, c'est vraiment une circulation permanente des idées et de la beauté.
En exergue de ce recueil XXE, tu cites le sociologue Florian Voros, qui a dirigé et préfacé un ouvrage intitulé « Culture pornographique, anthologie des porn studies » paru chez Amsterdam en 2015. En fait, tu mets en vers une de ces phrases dans l'introduction à l'ouvrage que je viens de citer. Peut-être qu'on peut la lire avant que tu nous racontes pourquoi celle-ci en particulier et puis pourquoi avoir choisi de la versifier. Parce que alors, c'est un choix qui m'a étonnée. J'étais voir le texte, je me suis dit « ça ne peut pas être versifié dans le texte original ». Et je me demandais, voilà, c'est une façon peut-être de neutraliser cette langue universelle et hop, de venir jouer avec et la donner sous un nouvel angle.
C'est alors l'expérience du plaisir et surtout du plaisir ambivalent que procurent les représentations sexuelles politiquement incorrectes qu'il s'agit d'explorer. Le fait de voir des corps faire l'expérience du plaisir, d'être un corps faisant l'expérience du plaisir, constitue des moments du processus de production de connaissances critiques sur la pornographie que les chercheurs et les chercheuses nient aux dépens de la rigueur intellectuelle. Florian Voros. Et en fait... alors, pourquoi la versifier ? Parce que je... Alors, d'abord, pourquoi la citer ? Parce que j'avais besoin de légitimer mon geste, peut-être. et pourquoi la versifier ? C'est justement pour faire une sorte de... un petit bras de fer avec, avec le langage justement de la recherche, de la sociologie, et parce que surtout aussi, ce qui se dit là, c'est que les chercheurs et les chercheuses nient aux dépens de la rigueur intellectuelle l'expérience du plaisir qu'elles ressentent en regardant du porno pour faire de la recherche. Et alors que moi, avec la poésie, je choisis ou je subis de restituer, enfin, un objet ou une forme en tout cas sensible, mais sans nier ma propre sensibilité. C'est un moment aussi, je dis dans le texte, comme mes sœurs, je fais mes propres cascades. Mmh. C'est pour moi, c'est aussi une forme de cascade que de regarder du porno, de l'assumer, de écrire là-dessus et d'assumer d'avoir du plaisir en regardant ces images, comme je le dis dans pas mal de textes. C'est pour moi une manière justement de traverser le porno, de produire justement un texte poétique sans rien nier, sans faire semblant que non, c'est juste pour la science ou pour la littérature ou pour l'art. C'est pour moi tout traverse tout. Ça y est, j'arrête.
Ça pas de souci. Oui, ouais. Et la pornographie, c'est vrai qu'on l'a pas forcément précisé aussi. Tu navigues sur des sites de porno mainstream. On n'est pas sur la pornographie indépendante. Florian Voros, il fait partie de ces chercheurs et chercheuses qui s'intéressent aussi, qui étudient la porno. Comme toi, je pense, avec un point de vue qui n'est pas moraliste. À aucun moment, hein, tu ne prends cette position-là et tu ne juges le contenu que tu regardes, ce qui ne t'empêche pas d'être critique. Et je pense on y reviendra. Donc, ne pas être moralisateur, aussi parce que c'est un objet dit grand public, mainstream, donc populaire. Je trouve que Florian Voros, il a une phrase très intéressante dans son introduction. Il dit « La pornographie grand public constitue une arène où les désirs et les angoisses postcoloniales, d'ordinaire euphémisés dans l'espace public, s'expriment explicitement, sans censure ni trucage. » Bon, déjà, je trouve que ça fait un lien avec le poème que tu nous as lu tout à l'heure. Et il y a une espèce de forme, il y aurait une forme d'honnêteté du porno, similaire à l'honnêteté qu'on retrouve dans ta poésie, qui se fait vraiment miroir d'une société en enlevant peut-être la bien-pensance, quoi.
Avant d'avoir vraiment la version finale de mon manuscrit abouti, je l'avais envoyé à Florian Voros. Et Florian Voros l'a lu et il m'a dit deux choses. La première qui m'a beaucoup frappée, c'est que justement, il trouvait... Enfin, c'est pas qu'il trouvait, il m'a dit « Il ne faut pas que ce soit un texte à charge contre le porno ». Et moi, j'avais pas l'impression que j'étais en train de faire un texte à charge. Je lui dis justement « Non, en fait, c'est mon... c'est mon regard, c'est mon prisme. Il y a aucun, enfin justement, il y a pas de discours moralisateur. Mais comme je suis une personne femme féministe dans un monde patriarcal, donc forcément, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là qui va être restitué dans les textes, bien malgré moi. C'est ma grille de lecture du monde. J'y peux rien, frérot. Et du coup, bref, il m'avait dit de faire attention à ça. Et c'est marrant parce que je le sentais vraiment. Je sais pas, peut-être qu'il est comme ça. Je n'avais jamais discuté avec lui auparavant. Je l'ai eu au téléphone. Mais comme une forme d'inquiétude par rapport à ce que j'étais en train de faire du porno. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, qui m'a vraiment hallucinée, c'est qu'il me dit, alors moi, je fais de la recherche et je ne peux pas te faire de retour vraiment sur ton texte parce que c'est un manuscrit. Et que moi, je travaille que sur les objets terminés. C'est-à-dire, vraiment, quand il sera publié, etc., peut-être que je vais le lire, peut-être que je vais pouvoir l'analyser. Mais là, en l'état, pas terminé, je ne peux pas... voilà. Et en me disant aussi qu'il ne comprenait rien à la poésie. Et ça me rend ouf, en fait. Ça me fume. Les gens qui ont des cerveaux capables d'analyser des choses très complexes, de faire de la recherche, d'enseigner, de regarder Lynch et de comprendre, arrivent à la poésie et disent « je n'arrive pas à comprendre la poésie ». Enfin, je comprends
pas. Mais tu l'as gardé en exergue de ton recueil quand même. Oui. Est-ce que tu veux bien nous lire les poèmes 45 et 46, s'il te plaît ?
Ceci n'est pas une leçon d'anatomie. Je ne regarde pas des cadavres, ni des grenouilles dans un labo. Je souris, je rougis, je mouille, je me mouille. Je mets la main à la pâte, je me compromets, je retourne mon slip. J'en reviens secrète et diminuée, la queue entre les jambes, sans avoir rien appris, ni résolu le moindre nœud. Fascinée par la diversité du vivant, par sa violence. Ceci n'est pas un essai. Comme mes sœurs, je dalise qu'à souhait. Je fais mes propres cascades. Je soulève mon pull se soulève. Mon corps scintille et se décharge dans le plus intime des éboulements. Il est style des plumes. Ceci est mon corps qui ne résiste pas et qui résiste, qui n'est pas un problème et qui en est un impossible à résoudre.
Je voulais que tu lises ces poèmes parce que je trouve qu'ils illustrent bien, encore une fois, cette démarche que tu as vis-à-vis de la porno et ta démarche réflexive vis-à-vis de la porno. Et du coup, en tant que poétesse, tu n'es pas soumise à cette rigueur intellectuelle des chercheurs et chercheuses dont parle Vorace, et donc tu es complètement soumise aux plaisirs ambivalents qui sont liés au visionnage. D'ailleurs, on a souvent ces mots « j'entre, mais je sors, et je résiste, je reste, puis je pars ». Mais voilà, tu ne perds jamais non plus. Cette ambivalence, elle est scrutée, elle est étudiée. Tu es attentive à ces sentiments opposés. Et donc, il me semble que c'est dans cette attention à l'ambivalence que se loge pour toi ton regard féministe, qui fait que tu, en permanence, en nous montrant, tu dis aussi « mais qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que ces images me font ?» Voilà, tu as toujours cette... voilà. Encore une fois, ce n'est pas une question, Rime. Bon, on peut enchaîner ?
On peut enchaîner.
Dès le troisième poème également, tu écris, il y a plusieurs paris qui nous montrent ta posture, en tout cas, moi j'ai envie de rester sur cette posture peut-être féministe, donc l'ambivalence, on a à la fois le plaisir du visionnage qui est exprimé, on a à la fois le conflit d'intérêts parce que ah, je suis féministe et qu'est-ce que je suis en train de regarder comme forme de représentation de la sexualité. Et dans le troisième poème, c'est aussi assez marquant parce que tu dis « je pense pénibilité du travail, je pense taux horaire ». Poème 21 aussi, tu dis « je ne sais qu'en penser, excepté que je ne suis pas censée penser en ce lieu en tout cas ». C'était toujours pas une question. Le porno mainstream, il est plutôt soumis au male gaze. Ton écriture, elle est habitée plutôt par un feminist gaze. Et donc là, j'ai parlé de taux horaire, de pénibilité du travail. Je trouve qu'il y a plein de petits détails comme ça dans ton livre qui font qu'on comprend dans quelle posture tu te places. Ça passe aussi par le fait de nommer les actrices porno. Notamment dans le poème 1, qu'on pourra lire juste après. Par l'attention que tu portes à leur jeu d'actrice. À leur corps, le fait de reconnaître leur travail, le fait de reconnaître leur existence en dehors du cadre du travail, en dehors du cadre du fantasme. Et par exemple, donc on va le dire, le poème 1, tu parles de corps de tous les jours et de sexe de tous les jours. Donc peut-être que tu voudras rebondir là-dessus. Avant, je te laisse lire ce poème, ce premier poème du recueil.
Elles s'appellent Jenny, Violetta, Stoya. Elles sont floues. On ne voit que leur viande. C'est un défi. Disent-elles. La liberté totale, dit lui. Puis, allongez-vous, rapprochez-vous, embrassez-vous. Caresses sont ça, caresses sont si. Elles ont des corps de tous les jours, des corps dociles, reconnaissables parmi mille, des corps à modeler, des corps de vacances en Tunisie avec Thomas Cook. Gazelle, ont-ils appelé là-bas son corps all-inclusive? La caresse est rose, le téton est rose, les ongles fauves. Elles le sucent à tour de rôle, elles ne se le disputent pas. Elles ont à manger tous les jours de ce pain. Son sexe est un sexe de tous les jours. Un sexe de supermarché, sous le jean, derrière le chariot. Un sexe de courir chercher le gamin à la maternelle. Un sexe métropolitain. Sexe aussi long que mon poing fermé. Tu parles d'une bagarre. L'une a des bas, l'autre a un body. Les sexes ouvrent leurs battants, portes de saloon écarlate. Les seins de la blonde divergent. L'anus de la brune est orné d'un rubis. Au loin, on entend des travaux. Un homme entre. Elles disent « Bonjour ». Elles sont polies à force d'être caressées. C'est un puma, si l'on en croit son t-shirt. Je caresse mon surmoi, dans le sens inverse du poil.
Merci. Du coup, peut-être pour revenir à cette question de quelles ont été à toi tes stratégies donc pour négocier entre le fait de ne pas avoir de jugement moral et en même temps de poser ce regard féministe sur les personnages, et notamment, pour moi, dans tes poèmes, tu es toujours du côté des femmes.
Tu sais que maintenant je t'écoute, on parle, je réfléchis, et je me rends compte aussi qu'en fait le rapport au porno n'a pas toujours été quelque chose de solitaire pour moi, que j'ai aussi eu une grande découverte, consommation du porno avec d'autres personnes ou en lien avec d'autres personnes, notamment avec mes premiers petits copains qui étaient vraiment des mecs très basiques, et du coup ça orientait pas mal ce qu'on regardait, de quelle manière, etc. Et on s'y retrouvait, on était très contents de regarder ça ensemble, mais avec du recul et en discutant, je me suis rendu compte qu'on regardait pas du tout la même chose. On regardait la même vidéo, mais on voyait pas la même chose, on interprétait pas les choses de la même manière, en fait. C'est que, enfin, lui, je pense, dans sa tête, il était le mec, moi j'étais la fille, et moi, dans ma tête, je naviguais entre les deux corps, en fait. J'étais tour à tour l'un, l'autre, hein, de manière assez indifférente. Et c'est ce qui rendait ça regardable, parce qu'au moment où j'ai capté que lui, il n'y avait que la position de cette femme-là qui, sur laquelle il kinkait, c'est problématique, en fait. C'est parce qu'elle est vraiment... Et puis, ce qui m'intéressait aussi dedans, c'est plus le rapport de domination, par exemple, mais qui est dans un cadre très précis qui, du coup, ne va pas déborder sur le réel. Pour moi, c'est comme si c'était une violence qui était contenue dans le cadre de cette vidéo-là, etc. C'était un collectionneur aussi, donc il avait vraiment ses collections avec les noms des actrices, etc. Et donc moi, je m'intéressais aux noms des actrices parce que pour moi, c'était des personnes et tout. Et puis aussi, je consommais ça comme je consommais le cinéma. Enfin, je regardais un film, le réalisateur m'intéresse ou la réalisatrice. J'essaie de regarder des films de la même personne qui a réalisé. Là, pareil, je regardais un film, une vidéo porno. Du coup, j'essayais de chercher le nom de la personne. Alors que pour lui, je me suis rendu compte qu'il collectionnait ces femmes-là, ces actrices, dans des fichiers classés, datés, avec... moi c'était vraiment le... Je sais plus comment on appelle ça chez vous, mais on n'avait pas ça au Maroc, les panini, là, dans lesquels on collait les... Ouais, les cartes panini. C'était un peu ces cartes panini du porno, quoi. Pardon.
Non, il n'y a pas de souci.
Et du coup, on ne regardait pas du tout la même chose. Après, j'ai essayé aussi d'aller vers du porno plus éthique. J'arrivais pas... Peut-être que je n'ai pas cherché très loin, mais par exemple, Erika Lust, j'avais essayé de découvrir, mais ça me laissait trop froide. Il n'y avait pas... c'était trop... trop lissé, trop étudié.
C'est
trop
assez ambivalent, justement.
Exactement, pas assez ambivalent.
Et je trouve que, en tout cas, tu as toujours ce côté malicieux, en tout cas, de venir casser, briser le fantasme, donc d'ériger comme ça des figures fantasmatiques, enfin, de fantasmes, et venir un peu casser ça. Je trouve que ça passe aussi par... tu as plein de métaphores culinaires assez marrantes où tu compares le vagin à une huître, tu parles de gars qui la bouffent comme un cassoulet, tu parles de carpaccio. Il y a ce truc très trivial, très culinaire, très... Ouais, voilà. Et justement, je me demandais, cette appétence de ta poésie pour le trivial, elle s'expliquait par ta méthodologie d'écriture. Parce qu'alors, il me semble que tu commences toujours par prendre des notes sur ton téléphone. Alors, peut-être que tu pourrais nous en dire plus. C'est une démarche que je trouve intéressante parce que j'ai l'impression qu'elle traduit aussi une réalité. Le fait qu'on n'a peut-être pas de temps à soi ou de chambre à soi pour écrire. Donc, hop, le téléphone, c'est à portée de main. Et c'est quelque chose qu'on fait toujours entre deux autres activités, entre deux choses.
Oui, c'est ça, c'est une chambre à soi portable, quoi. Et c'est marrant ce que tu dis sur les métaphores culinaires, parce que moi, je m'en étais pas du tout rendu compte. Ça fait partie des choses, en fait, qu'on fait comme ça, et puis finalement, qui ressortent. J'en ai pris conscience pendant une rencontre avec Lorraine Malka, je ne sais pas si vous connaissez, qui est essayiste et journaliste. Et Lorraine Malka a écrit un livre aux éditions Les Pérégrines qui s'appelle Mangeuse, et sur le rapport aux femmes, rapport des femmes à la nourriture, de manière très large. Hein, c'est pas juste parce que... Il y avait un gars qui lui a dit vous avez écrit un livre sur la boulimie. Pardon, c'est pas drôle.
Ok. Du coup, je vais revenir sur peut-être ton procédé d'écriture. Donc, peut-être en tout cas sur comment ça peut avoir un impact ensuite sur la structure de tes poèmes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette première étape par téléphone. Et ensuite, il me semble que tu es invité sur France Culture. Et tu dis que le véritable travail, il commence sur l'ordinateur, donc on est quand même sur ensuite un travail de montage. Enfin, moi, je trouve que la poésie, ça ressemble beaucoup à l'art cinématographique. On est vraiment sur du montage de séquences. Je me suis demandé pour ce recueil. Donc, en plus, tu dis que tu as commencé à écrire très tôt dessus. Donc, j'imagine que c'est peut-être des années de notes accumulées, en tout cas de par-ci par-là. Comment s'est dessinée la dramaturgie de ce recueil? Voilà. Comment tu as réussi au bout d'un moment à démêler un squelette? Est-ce qu'il y a eu une question centrale que tu t'es posée en te disant « Ok, ça c'est mon fil rouge et je vais le suivre ».
En effet, en fait, j'écris tout le temps sur mon téléphone, d'abord des notes. Et puis petit à petit, quand je vois qu'il y a une sorte de fil conducteur entre toutes ces choses-là, aucune thématique se dessine ou aucun souffle en fait commence à se dessiner, je continue sur le même fichier dans notes et puis après je transmets ou transvase, je sais pas comment on dit, sur mon ordinateur, et c'est là que je commence à bosser. Mais c'est pas que un travail de montage ou d'architecture de manuscrit, c'est aussi je repense vraiment chaque mot, chaque je parle tout le temps de musicalité, mais vraiment de la musique de chaque texte. Si des mots me posent problème, je les questionne un peu en me disant pourquoi. Je vérifie tout le temps la définition des mots. Je le fais tout le temps pour tout, même parfois dans la vie de tous les jours, j'ai un petit doute, je regarde, mais j'aime bien le dictionnaire, je trouve ça vraiment magique comme outil. Mais sauf pour celui-là. C'est vraiment celle seule que j'ai commencé et que sur l'ordinateur directement, parce que c'est en lien avec le visionnage en fait. Comme j'étais sur mon ordi, je procrastinais, j'allais sur internet et puis je finissais sur un site porno. Et ben au bout d'un moment, j'ai ouvert un doc et un fichier Word et j'ai commencé, enfin OpenOffice, et j'ai commencé, et j'ai commencé à travailler comme ça en fait. Au départ, vraiment juste en écrivant ce qui me passait par la tête. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à élaguer, à orienter un peu plus, à essayer de trouver une unité et à essayer de comprendre aussi ce que j'étais en train de faire. J'ai pas, toujours pas compris, mais c'est le chemin qui est important, non ?
Et toujours sur cette émission à France Culture, tu avoues, je me contrains beaucoup dans mon écriture, j'enlève beaucoup. Je me demandais ce qui justifiait cette économie du poème. Est-ce que c'était un choix esthétique d'aller vers quelque chose de très incisif? Voilà. J'ai l'impression, en plus, tu insistais vraiment sur le fait que tu n'aimais pas les fioritures, qu'il y avait les poèmes trop longs. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ce choix esthétique d'aller vers quelque chose de dense, de condensé, de...
J'avais dit tout ça, vraiment, ça fait trop snob. Mais en fait, oui, c'est vrai. En fait, j'ai tout le temps peur. En fait, chaque personne fait ce qu'elle veut, ok. Cependant, j'ai un peu de mal avec, avec les poèmes où je ne sais pas, les. Bon, je ne vais pas citer de nom quand même, ça ne se fait pas. Non, ça me démange, je vous dirai après, hors micro. Certaines personnes qui écrivent vraiment, qui ont l'impression qu'écrire de la poésie, et d'ailleurs, il y a énormément de romanciers et romancières qui ont aussi cette même conception-là, c'est donner libre cours aux mots qui sortent, être en lien, en connexion directe avec les émotions et juste les dégueuler comme ça sur le papier. Et puis hop, là, c'est beau, c'est mon poème, ça sort de moi. Mais ton caca, il sort aussi de toi. C'est pas une raison pour le mettre dans un livre. Mais du coup, pour moi, ce qui est vraiment hyper important, c'est justement ce travail-là, c'est de s'empêcher, c'est de ne pas se laisser aller à cette facilité-là que de... Parce que je pense si on a toutes et tous des choses à dire, qu'on ressent des choses hyper fortes et intenses. Je pense que si on donne libre cours à ça, on boit de pinte et on ouvre l'ordi et c'est parti, mon kiki. Mais est-ce que ça fait une œuvre? Est-ce que ça mérite d'aller, abattre des arbres pour faire du papier et imprimer ça dessus? Je suis pas sûre.
Très bien. J'ai toujours pas évoqué avec toi la dernière partie, parce qu'en fait ce recueil il est presque composé de deux recueils. La dernière partie qui s'appelle De rien bébé, qui est un monologue à la mère. Voilà. Et qui il me semble fait écho. Tout à l'heure tu as évoqué le fait que le 8 février en même temps sortait X et XE, et en même temps sortait la réédition en poche de L'eau du bain. Donc un qui parle de maternité, un qui parle de pornographie, que tu écris presque en même temps. Effectivement, dans ta poésie, tu essaies toujours de réconcilier la mère et la putain. Et il y a cette dernière partie, hop, dans XXC, où on a une adresse à la mère et on parle de sexe, on parle de sexualité.
Ça commence par une adresse à la mère, ouais. Mais ça ne s'adresse pas qu'à la mère. Ouais. Et dans De rien bébé, je vous dis d'où vient le titre. Parce que c'est vraiment, vraiment un truc à la con. En fait, il y avait Kylian Mbappé qui avait mis une photo de lui sur Instagram en disant « Merci pour vos vœux d'anniversaire ». Et j'avais répondu en commentaire « De rien bébé ». Et après, je l'ai juste fait comme ça et pour me faire rigoler toute seule. Sauf que j'avais ma meilleure amie qui m'envoie une capture d'écran. Elle me dit « T'as pas honte ?» Elle me dit je suis en train de scroller, je trouve ton nom en train de dire « De rien bébé » à Mbappé. T'es vraiment un troll. Voilà. Et du coup, elle me dit « Tu sais quoi, t'as qu'à en faire un livre. » Et à ce moment-là, moi, j'avais terminé XXX selon moi. Sauf que ma maison d'édition... pour ne pas la nommer le castor astral, m'a dit que c'était trop court, pour revenir sur cette histoire de longueur. On m'a dit c'est pas suffisamment lent, les gens quand ils achètent des livres ils en veulent pour leur argent, alors il faut que ce soit un peu plus épais.
Les arbres,
et tout.
On pense aux arbres.
Exactement. Et donc, donc mon éditrice elle a un peu insisté et j'ai dit non, pour moi c'est terminé, le livre il est fini, point, il n'y a rien à faire. Elle me dit réfléchis, je dis non j'ai réfléchi et ça s'arrête là, je dis de toute façon je m'en fous de le publier et tout et tout. Elle me dit ok réfléchis, j'ai dit non je veux pas. Et puis vraiment plusieurs mois passent et après je lui écris en disant tu sais quoi Marion, d'accord j'ai cette deuxième partie, ça s'appelle De rien bébé et en fait je pensais qu'elle allait me dire qu'est-ce que c'est que ce délire. Elle m'a dit oui et voilà et je l'ai rajouté et elle me dit ah c'est super, c'est parfait, Dieu, ça, vraiment ça ouvre le livre sur autre chose etc. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça, je suis un peu dégoûtée parce que chez beaucoup de personnes ça fait un peu de l'ombre à la première partie qui est pour moi le livre en fait. Du coup le De rien bébé prend un peu plus le pas. Après moi je le lis aussi beaucoup en rencontre parce que pour plein de raisons. D'abord parce que ça s'y prête plus facilement en fait. Il y a des trucs un peu rigolos et puis comme j'aime bien un peu faire le clown, vous l'aurez remarqué, ça c'est plus simple en fait à porter pour moi en lecture que les textes du début.
Est-ce que tu veux nous en faire entendre un bout ? Je n'avais pas forcément de... Moi, il y a des parties... Enfin, je ne sais pas si tu as une partie de prédilection. Sinon, tu peux lire celle-ci. C'est plutôt le début. Mais si tu préfères lire un autre bout, je n'ai pas de...
Je veux coucher avec. Je veux faire l'amour à. Je veux ken. Je veux bouillave. Je veux sale et tendre. Je veux faire des petites maisons en kit. Je veux baiser. Qu'on me baise le bocage. Qu'on me baise la boca. Me caresse le bouli. Me soupèse l'emballage. Me transperce, transporte, transcende. Je veux qu'on me frotte. Qu'on m'effleure le fou. Me lichote les tissus avec une langue chienne. Je veux qu'on me draine. Qu'on me soulage. Qu'on me prenne avec rage et douceur aussi. Je veux qu'on me déleste. J'ai envie de paresser. De squatter. De zoner. J'ai envie d'habiter les zones de turbulence caractéristiques des orages, les zones d'ombre, les angles morts. Je veux percer à jour les points noirs, gratter les croûtes, déterrer les verrues, cautériser mes désirs au fer chaud des tiens. Je ne veux pas me réveiller, je veux renaître tous les matins. J'ai une envie pressante de dire, je veux dire je t'aime.
On voit effectivement qu'il se prête très bien à la mise en voix.
Tu vois,
carrément. Justement, ça me permet de faire le lien parce que tu n'écris pas seulement, tu performes aussi. Le 4 avril, tu étais invitée à la Maison de la Poésie de Paris pour une lecture musicale donc, et performée de X et XC. Et pour celles que ça intéresse, la vidéo est d'ailleurs disponible sur le YouTube de la Maison de la Poésie. À quel moment de ton parcours de poétesse tu as commencé à mettre en voix tes textes et comment cette mise en voix, cette oralité, elle est peut-être venue carrément modifier ton écriture à la racine ?
C'est très marrant parce que là encore, la réponse, elle n'est pas très, très sexy, pas très romantique. En fait, j'avais publié le premier, là, 20 poèmes et des poussières aux éditions Lanskin. Et on m'avait proposé d'en faire la lecture dans un lieu à Paris. Et j'ai dit non. Et j'étais très surprise qu'on me demande de le lire. J'ai publié ce livre, il est sorti en 2015. J'avais envoyé le manuscrit en 2014. J'étais arrivée en France en 2013. J'étais jamais allée voir une lecture de poésie. J'avais jamais vu ça. En fait, je savais même pas que ça se faisait. À ce moment-là, vraiment, j'avais une conception très étrange de la poésie. Pour moi, c'est tu publies ton livre et puis basta, quoi, il fait sa vie, les gens vont l'acheter dans la librairie et c'est tout. Et c'est ce que je dis à mon éditrice, je fais mais jamais de la vie, je vais le lire et tout. Et là, elle m'explique que mais c'est comme ça que les gens se font payer. Ouais. Et voilà. Et donc, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à me dire. Et puis, bon, il y avait aussi une autre raison, c'est que même en me disant ça, je me suis dit non, je me sens pas de le faire. Et à un autre événement, on m'a proposé que le texte soit lu par une comédienne. La comédienne a vraiment massacré mon texte. C'est vraiment très. Bref, et il était gentil, hein, mais voilà. Et du coup, elle l'a trop aplati. Il n'y avait plus de nuances, il y avait plutôt les petits endroits d'humour ou de, où il faut respirer ou souffler. Ou, c'est, tout est parti en fumée. Et donc là, je me suis dit, bon, fais-le, t'as pas le choix. Et voilà. Et c'est venu petit à petit.
Et c'est une bonne expérience.
De faire la lecture de ces textes.
Oui, et est-ce que ça a nourri du coup Oui. C'est venu nourrir. Est-ce que maintenant tu prends l'habitude aussi, même dans ton travail, que c'est une partie intégrante où toi-même tu te fais la lecture pour justement. Tu parlais de musicalité tout à l'heure, alors on n'a pas forcément besoin, on peut l'entendre sans la dire, mais.
Exactement. Eh ben, oui, tu as raison. C'est que au début, les premières fois ont été vraiment très très dures. C'était compliqué pour moi de lire, de parler devant des gens. Bon, ça, ça a changé. mais justement, enfin, je me suis rendu compte. En fait, ce qui m'a sauvée un peu, c'est que au même moment où on me propose de faire des lectures devant des gens comme ça. Je découvre le bordel de la poésie. Et au bordel de la poésie, on fait les lectures en tête-à-tête à une personne à la fois, voire deux. Mais c'est vraiment un autre rapport et au texte et au... Enfin, c'est plus une assemblée, en fait. C'est plus une assemblée. On ne sait pas si les personnes écoutent ou pas. On ne sait pas si les personnes sont intéressées ou pas. On capte ce qu'on leur raconte. Alors que dans l'alcôve, les personnes posent des questions, font des retours. Il est arrivé qu'on me dise, enfin, il est arrivé que des personnes pleurent d'émotion, d'autres qui rigolent, d'autres qui commencent à se chauffer un peu, d'autres qui critiquent ou qui posent des questions. On m'a déjà dit une fois, bon, c'était vraiment fin de soirée, la meuf elle insiste, et à la fin elle me dit, j'aime pas ta diction. Vraiment, j'ai dit, frérot, j'ai bu 3 pintes et j'ai terminé ma soirée. Et en fait, au bordel de la poésie, comme on fait plusieurs lectures par soirée et que pendant longtemps j'étais la best-seller dans ma folle jeunesse, il m'est arrivé de faire jusqu'à 16-20 lectures le même soir. Et donc, relire les mêmes textes 16 à 20 fois, on finit par voir ce qui cloche, ce qui fonctionne pas, là où c'est bancal. Franchement, tu peux plus te mentir, quoi. Ça se voit. Ça se voit à chaque fois pendant 20 fois. Tu dois assumer le même texte sur lequel tu as des doutes. À la fin de la soirée, tu as envie de mourir. Tu l'enlèves, tu le jettes direct. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une autre exigence aussi par rapport au texte. Comme ce que je disais, bon, les personnes critiquent, les personnes posent des questions. Et quand tu vois que tu ne peux pas justifier l'usage d'un mot pour la troisième fois de la soirée, bah, tu l'enlèves.
Il faudrait donc lire les recueils avant de les publier. Ça économiserait des arbres, encore une fois. Mais peut-être on peut, justement, je voulais en parler, peut-être de ces volets, le fait que t'es... Alors, il me semble que tu l'as créé à Paris, le bordel de la peau, avec... Non ? Tu l'as pas initié
Non, en fait, moi, j'ai intégré le bordel en 2016. Et non, ça existait déjà depuis un an et demi à Paris. Alors que à la base, c'est quelque chose qui a été initié par un couple de poètes-poétesses de New York qui ont lancé ça pour trouver une autre manière de lire, dire, accueillir de la poésie tout en ayant un petit verre à la main dans une ambiance festive. Et suite au succès là-bas, le couple a appelé de plein de personnes, des milieux de poésie, surtout slam, spoken word, dans d'autres pays. Et maintenant, il en existe une quinzaine.
Oui, dans une ambiance festive et pas que, parce que vraiment, il y a du coup, ça s'appelle le bordel de la poésie. Tu parles d'alcove, de tête à tête. Donc là, on a un lien quand même qui est assez assumé entre poésie et érotisme ou poésie et sexualité. Je voulais peut-être terminer doucement sur ce lien-là que toi tu entretiens entre la langue et l'érotisme. Tout à l'heure, j'ai cité Audre Lorde que tu cites dans Lettre aux jeunes poétesses et elle a écrit un texte, il me semble que tu as lu, sur l'érotisme et sur l'érotisme comme forme d'empouvoirment. Et encore une fois, aussi en tant que personne sexisée ou en tout cas assignée femme, sur comment on est privé peut-être de l'érotisme et sur comment se le réapproprier. Donc peut-être ton lien à toi entre la langue et l'érotisme, que ce soit dans des pratiques performatives comme au bordel ou que ce soit dans ton écriture.
Alors mon lien à moi, il est un peu particulier aussi parce que d'abord je suis née au Maroc, j'ai grandi là-bas. Et donc on a un rapport à la pudeur qui est hyper importante. Il faut toujours être un peu réservé, etc. Et dans le même temps, tout le monde est chaud patate, mais ça se passe vraiment dans des sortes de circuits parallèles en même temps. On a vraiment un rapport très différent et au corps et à l'érotisme, etc. C'est honteux de sortir en mini-jupe, mais en revanche, les meufs, elles sortent avec des djellabas, mais hyper moulantes. Limite, tu sais pas si elles ont un slip ou pas. Il y a une manière très particulière de marcher pour vraiment faire bien bouger les fesses au maximum pour qu'elles soient vraiment visibles et que le frottement avec le tissu soit perceptible. Et c'est ça, en fait, qui est considéré comme érotique. Sortir en petite jupe, tu te fais harceler. Bon, tu te fais harceler quand t'es en djellaba aussi, évidemment. Mais c'est ça qui est considéré beau, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas forcément tiré au clair parce que très tôt, quand j'ai commencé à publier, je faisais aussi de la photo à l'époque, j'ai exposé de la photographie et j'ai commencé à parler de sexualité. Pour moi, c'était vraiment c'était de la sexualité politique, c'était pas de l'érotisme, c'était pas avec la volonté de, je sais pas, d'émoustiller, quoi, d'exciter. Enfin voilà, j'entretiens pas un lien avec l'érotisme, c'est l'érotisme qui entretient.
Un lien avec toi.
Et c'est souvent, enfin mes textes ont été lus comme ça, et donc je me suis posé des questions. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, t'as qu'à l'assumer en fait. Enfin, si tout le monde te dit que tes textes sont érotiques, bah, peut-être qu'ils le sont, et en fait, c'est que t'as quelque chose contre l'érotisme. En fait, non, moi, j'adore ça, vraiment, j'aime beaucoup le rapport de séduction, j'aime bien le. Enfin, je sais pas, une sorte de forme d'érotisme qui est distillée un peu comme ça dans le quotidien. Pour moi, c'est ce qui rend aussi les rapports beaux, c'est ce qui nous permet de ressouder aussi le tissu social au-delà de vouloir, je sais pas, répondre à son désir et le concrétiser, l'assouvir, etc. C'est encore autre chose. Et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de l'érotisme, comme en parle Audre Lorde, parce qu'il y a aussi ce côté vraiment empouvoirant aussi, qui, je sais pas, c'est réjouissant, quoi.
Est-ce que tu veux nous raconter ce qui germe aujourd'hui dans les notes de ton téléphone et qui deviendra peut-être un nouveau projet de recueil ?
Alors là, je viens de terminer un manuscrit et du coup, vraiment, ce qui germe dans mon téléphone, c'est des choses très, très disparates pour l'instant. Il y a un texte au jeu, il y a un texte qui s'appuie sur une chanson de Rai de Cheb Mami qui s'appelle Mon cœur est au pays des merveilles. Et du coup, j'ai réécouté cette chanson récemment et ça m'a... J'ai compris que la chanson que je connaissais petite n'est pas celle que j'ai réécoutée là, adulte, avec mon regard d'adulte. Et du coup, j'ai envie de travailler dessus et voilà, de faire des résonances avec cette chanson.
J'ai ouï dire d'ailleurs que tu travailles sur un projet de fiction, de prose, mais peut-être c'est plus d'actualité.
Vraiment. Si, je travaille. Malheureusement, j'en ai plusieurs en même temps que je pousse comme ça. comme un petit caillou de Sisyphe. Et pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée vraiment au sommet. Je le vois, mais je n'y suis pas encore.
Merci, Rim. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui.
Je me demandais, Rim, si tu avais lu Avec Bastien de Mathieu Riboulet, qui est un roman où il regarde une scène de porno et il imagine la vie de l'acteur. Bon, c'est une fausse question, ça, c'est pour commencer. ensuite, même si Al a dit que tu n'étais pas soumise à la rigueur de la recherche, moi, ce que j'entends de cette conversation, c'est beaucoup de la poésie réflexive et du lien très fort qu'il y a entre intellect et sexuel, sûrement par rapport à la jouissance. Et en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur l'opposition prétendue qu'on fait entre la poésie lyrique et une poésie peut-être plus documentaire. J'ai l'impression, mais je n'ai pas encore lu X et XC, que tu poses un regard sur un objet extérieur tout en parlant quand même de ton désir, ton plaisir. Du coup, mes deux vraies questions, est-ce que pour toi, ce recueil-là est différent de tes autres recueils ? Et est-ce que tu distingues tes postures de journaliste et de poétesse ?
Alors, dans ma tête, je les distingue. Mais sauf que forcément, je retrouve je sais pas comment les appeler, des résidus du journalisme. Parce que j'ai arrêté le journalisme, entre autres, parce que je n'arrivais plus à écrire dans d'autres formes. Enfin, le journalisme était trop présent sans l'écriture qui est hyper codifiée, très nette, très informative, où il n'y a pas vraiment de place au beau, à l'exploration linguistique, langagière en tout cas, pour écrire de la poésie. Mais je retrouve toujours justement quelque chose un peu de la démarche journalistique où on va faire de la recherche un peu, on va essayer de donner les infos. Et il y a bien malgré moi, malheureusement, mais voilà, on ne se refait pas. Il y avait un autre volet à ta question ? Oui, alors pour moi, il est différent pour deux raisons. Il se rapproche un peu de l'eau du bain parce que c'est vraiment, c'est là où il y a vraiment une sorte d'unité. Il y a aussi les quatre dans l'inclusive où il y a l'unité de lieu et de thématique, mais je la retrouve beaucoup plus fort dans ce texte et dans l'eau du bain où il y a une vraie unité esthétique et tout. Et les deux se rapprochent aussi dans un autre volet, c'est que c'est... Je pense que c'est les seuls où je ne me suis pas auto-censurée. Où je me suis dit, c'est comme ça, point. Il va falloir que tu l'assumes, quoi. Alors que ça me démangeait d'enlever plein de textes et tout. Je me disais, non, c'est peut-être pas celui-là quand même. Et si ta maman, elle le lit ?
Est-ce que, s'il n'y a pas de questions, tu veux finir avec une dernière lecture, peut-être ?
Une femme est à quatre pattes. Un homme prend de la vaseline dans un pot et manipule son cul. Je trouve ça beau que l'on manipule ainsi un cul. Je m'en félicite. Il introduit de la vaseline dans son anus. Je trouve ça beau qu'on touche ainsi un anus. Je nous applaudis. Il caresse son anus, puis introduit une phalange dans son anus. Je me récompense. Il bourre son cul de vaseline et le fouille. Je trouve ça beau qu'on fouille ainsi un anus. Je me caresse. Le cul est un sexe comme les autres. Les autres sont les sexes, les cheveux, les bras, les ventres et leurs nombrils, les règles, le sourire, les aisselles et leurs poils, toutes les lèvres du monde, le ciel regardé de biais, la parole gentille, les fruits, la mer, les fruits de mer, la peau, l'orage et les journées à 30 degrés. Le cul, sexe désintéressé, gentil, sans ambition, sexe pur, sexe sain. Sexe non bourgeois, sexe non religieux, sexe égalitaire. Je me caresse, mon anus se contracte quand je touche mon clitoris. Je me caresse mon corps, je résiste, je ne résiste pas, je résiste, je ne résiste pas. Je regarde, j'existe, je n'existe pas. J'existe sans modération ou n'existe pas. Je ferme les yeux, je mange les images, je suce l'icône, je mange l'actrice. Ne digère point.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venu ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.